Et donc nous sommes dans une émission de Sortir du capitalisme. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie d'émission, nous sommes toujours avec Benoît d'Alternative Libertaire pour poursuivre l'analyse critique des idées donc de Francis Cousin. Et après, dans une première partie, avoir analysé de manière critique son cadre théorique général, on va maintenant revenir sur différents thèmes qui sont un peu centraux, voire obsessionnels dans sa pensée. Alors, en commençant tout de suite par quelque chose qu'on a déjà abordé dans la première partie, c'est-à-dire son obsession de l'immigration, de l'immigrationnisme.
Oui, en effet, c'est présent, cette obsession de l'immigrationnisme, beaucoup dans les premières pages de la critique de la société de l'indistinction, dans l'être contre l'avoir aussi, dès les premières pages, c'est traité, et aussi dans ses interventions sur YouTube, on le voit souvent parler de ça. Il y a plusieurs fantasmes autour de ça, en particulier trois points. D'abord, ce fantasme lié à une certaine interprétation tronquée de l'idée marxienne d'armée de réserve du capital. Ensuite, carrément un fantasme autour d'une espèce de grand remplacement. Donc c'est un thème qui a été développé par Renaud Camus, mais on peut dire que Francis Cousin, il le développe de façon spécifique. Et ça va être lié à sa fétichisation d'un prolétariat blanc européen. Et enfin, une critique aussi qui se prétend marxienne du lumpenprolétariat. Donc on va aborder ces trois points et on va voir en quoi ils correspondent en fait à un délire réellement raciste de Francis Cousin, qui, une fois encore, va essayer d'orienter l'anticapitalisme vers des positions d'extrême droite et vers une position qu'on peut qualifier d'identitaire au profit d'un nationalisme européen presque, si on peut qualifier un nationalisme européen. Donc voilà, on va voir un petit peu ces trois points.
Et juste par rapport à ça, on voit bien que, même si on l'a déjà dit dans la première partie, que finalement, on divise le sujet qui est classiquement considéré par le marxisme comme le sujet de l'émancipation, c'est-à-dire la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière, elle n'est pas que blanche, elle n'est pas que européenne, elle n'est pas que masculine, elle est même en majorité non blanche, non masculine et non européenne, si on ajoute ces trois facteurs. Donc, on ne voit pas en quoi est-ce que c'est très anticapitaliste, finalement, de diviser la classe ouvrière entre une fraction qui serait supposément bonne et radicale, la classe ouvrière blanche masculine européenne, et le reste de la classe ouvrière. Au contraire, ça ne peut finalement que offrir au capitalisme une classe ouvrière divisée et donc la vaincre plus facilement, notamment, ça Francis Cousin ne le dit pas très clairement, c'est que c'est précisément par cette division de la classe ouvrière, à la fois raciste et patriarcale, que le capitalisme a été relativement indemne de lutte de classe radicale, comme dit Francis Cousin, entre 1945 et 1968. Précisément parce que le capitalisme de l'après 1945 reposait sur un compromis de classe entre les capitalistes et la classe ouvrière blanche masculine. Et donc, ce compromis de classe qui était loin d'être radical a permis au capitalisme de prospérer comme jamais il ne l'a fait dans son histoire, précisément en s'appuyant sur un compromis de classe avec la classe ouvrière blanche masculine. On voit bien que finalement, une optique révolutionnaire et une approche identitaire ne font pas bon ménage. Mais alors, puisqu'on a parlé de ces différentes thématiques, on va commencer par une citation dans « Lettres contre l'avoir » donc de Francis Cousin, page 30, justement au sujet du grand remplacement. Ensuite, on lira une citation, page 25, sur la question de l'armée de réserve, et on enchaînera donc sur une critique, un petit peu, de sa vision de l'immigration.
Donc oui, dans « Lettres contre l'avoir », page 30, Francis Cousin dit ceci, je cite, « Par l'immigration, le capital désagrège et mutile ainsi les champs de perception qui pourraient permettre la remise en cause de la trame du pouvoir de son pouvoir. Le but du regroupement familial, intervenu en même temps que la légalisation de l'avortement et la généralisation de la contraception, a donc été clairement de procéder à une transformation monumentale du territoire démographique de l'espace de la survie capitaliste. En faisant venir massivement dans les banlieues européennes des hommes et des femmes issus d'un monde où la conscience immuable et soumise est la règle d'un espace-temps statique, sans culture critique et sans passé de vérité subversive, on s'est très clairement essayé à briser la conscience de classe de la vieille ancestralité ouvrière, des dynamiques européennes, du révolutionnable incessant. » Donc c'est une pensée vraiment paranoïaque et conspirationniste ici qu'on découvre. Donc il va déjà faire le lien entre ce qu'il appelle la généralisation de la contraception et la légalisation de l'avortement, et ce qu'il appelle aussi l'immigrationnisme. Donc c'est déjà une totale confusion à ce niveau-là. Et là, l'idée, elle est vraiment aberrante. L'idée, par exemple, que l'avortement et la contraception seraient presque des conspirations du capital pour faire diminuer au niveau démographique la classe ouvrière européenne. Donc là, c'est vraiment complètement délirant. Surtout quand on sait que les luttes féministes qui correspondent à ces dynamiques étaient essentiellement anticapitalistes et s'opposaient au patriarcat capitaliste. Et cette pensée conspirationniste, elle traverse tout le champ de Francis Cousin, toute son œuvre. Et donc, il va faire le lien entre ça et ce qu'il appelle l'immigrationnisme. Et là, on atteint aussi vraiment un summum de pensée paranoïaque. C'est l'idée que ce qu'il appelle les espaces islamo-africains et l'Orient seraient des sociétés statiques et immuables, presque sans histoire et sans histoire critique. Là où le prolétariat européen, avec toutes les communes justement européennes, communes de Paris, voilà toutes les communes qui sont pour lui des références, c'est le lieu en fait de la vraie subversion contre le capitalisme. Et d'une certaine manière, le capital organiserait l'immigration pour briser l'homogénéité de cette identité révolutionnaire européenne et pour apporter des éléments non critiques de société qui serait du coup statique et immuable et pour casser finalement cette identité d'un prolétariat révolutionnaire. Donc c'est vraiment délirant et c'est vraiment une théorie du grand remplacement qui est très spécifique et qui se dit du coup révolutionnaire. Et voilà, là on est vraiment face à une pensée paranoïaque qui aussi suppose des complots complètement imaginaires et qui va vraiment aussi personnifier beaucoup voilà, la question de la domination. Il y a vraiment une vision du coup extrêmement raciste des sociétés qu'il appelle extra-européennes, ce fantasme de société sans histoire. Et tout ça, vraiment, ça accompagne sa mystique du sujet révolutionnaire européen, ouvrier masculin blanc. Donc voilà, en gros, il y a une identité de cet ouvrier masculin blanc qu'il faudrait préserver parce qu'elle serait révolutionnaire et elle serait menacée par l'arrivée d'immigrés qui eux-mêmes seraient contre-révolutionnaires parce qu'ils appartiendraient à des sociétés sans histoire. C'est un peu ça l'idée. Donc là, on est vraiment dans une pensée paranoïaque, comme je disais, dans une pensée extrêmement identitaire, extrêmement essentialiste et dans une vision complètement raciste des sociétés extra-européennes, comme je le disais. Donc peut-être que tu as une chose à ajouter à ce niveau-là.
Oui, bah, y a pas mal de choses à dire. Alors peut-être pour reprendre les choses dans l'ordre, donc y a d'abord cette idée que finalement les migrations sont organisées par le capital. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de ces vidéos. Bon, il faut, je pense, un petit peu s'attarder sur ce sujet. Donc déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, en France, les migrations, depuis à peu près 40 ans, ne sont plus organisées par le capital. Depuis, globalement, les circulaires Marcellin-Fontané de 1972 qui mettent fin à l'immigration de travail. Donc, effectivement, pendant les Trente Glorieuses, une partie des migrations était organisée par le capital. Et finalement, ce qu'on regarde, c'est que c'est précisément pendant les Trente Glorieuses que, finalement, la classe ouvrière blanche dispose d'un partage, disons, de la valeur ajoutée le plus avantageux. Donc, finalement, on voit que immigration organisée par le capital, niveau de salaire des prolétariats blancs, finalement, l'immigration organisée par le capital entraîne une baisse des salaires blancs. C'est plutôt le contraire qui s'est produit pendant le train des Trente Glorieuses, puisque c'est précisément parce qu'on donnait aux travailleurs immigrés les places les moins bien rémunérées et les plus dures et les plus aliénants dans le processus de production. Donc par exemple chez Renault, les ouvriers spécialisés les moins bien payés et qui avaient les conditions de travail les plus dures, ces postes-là étaient systématiquement donnés à des immigrés extra-européens. Ensuite, juste au-dessus d'eux, il y avait les immigrés européens. Au-dessus d'eux, il y avait les Français blancs qui, du coup, bénéficiaient automatiquement de postes plus avantageux que si cette immigration n'avait pas existé. Et donc, de salaires plus élevés. Donc là, on voit que finalement, pour voilà, ce qui est des Trente Glorieuses, l'argumentaire de Francis Cousin ne marche pas du tout. Quand le capital organise l'immigration pendant les Trente Glorieuses, eh bien, cela entraîne une augmentation des salaires du prolétariat blanc. Et on peut dire la même chose pour les États-Unis. Par exemple, des études récentes ont montré que c'est dans le sud où justement il y a une main-d'œuvre esclavagiste massive, donc qui théoriquement devrait contraindre les prolétaires européens à des salaires de misère, voilà, parce qu'il y a une main-d'œuvre esclavagiste bon marché massive. En fait, les salaires prolétaires blancs sont plus élevés que dans le nord, alors qu'il y a une concurrence extra-européenne beaucoup plus faible au nord des États-Unis. Donc, on voit que pour le cas des États-Unis non plus, cette idée que finalement la concurrence extra-européenne, alors est-ce qu'on peut parler de migration organisée par le capital dans le cas de l'esclavage ? Un petit peu. On voit que dans le cas de migration organisée par le capital, la présence d'un prolétariat ou d'une classe d'esclaves extra-européenne entraîne une augmentation des salaires des ouvriers blancs, pour une raison très simple, c'est que du coup, ils se retrouvent à des postes plus élevés dans la hiérarchie. C'est ce qu'on trouve aussi dans les mines d'or en Afrique du Sud. Ils se retrouvent plus haut dans la hiérarchie, donc ils bénéficient d'une part plus importante de la plus-value, puisqu'ils se retrouvent dans des positions soit de travailleurs qualifiés, soit d'encadrement. Et donc, on sait que c'est des catégories qui, historiquement, bénéficient un peu de la redistribution du profit par le capital. Donc c'est quelque chose qu'on a développé dans une émission avec Alain du Bloc Carbure sur la question des classes moyennes. Donc pour en venir maintenant aux migrations actuelles. En fait, aujourd'hui, les migrations ne sont pas organisées par le capital, sauf dans un nombre de cas restreints, mais qui ne sont pas tellement celles dont parle Francis Cousin. Donc c'est beaucoup les migrations du travail du Caire, donc les migrations... effectivement, de femmes qui vont aller s'occuper de faire les tâches ménagères dans les couples de classe moyenne, blancs. Donc ça, bon, c'est quelque chose qui, de toute façon, dont Francis Cousin ne parle pas et qui n'entraîne pas particulièrement de baisse de salaire. En réalité, aujourd'hui, depuis 40 ans, les migrations sont le produit principalement des ravages du capitalisme européen occidental plus généralement dans les pays du Sud. Donc, loin d'être organisé par le capital pour baisser les salaires dans le Nord, en fait, ces migrations sont plutôt l'effet du capitalisme impérialiste et colonialiste européen, dont bénéficie en réalité la classe ouvrière blanche masculine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le café a ce prix-là, si les jouets ont ce prix-là, si l'électroménager a ce prix-là, si un grand nombre de marchandises qui sont consommées par la fameuse classe ouvrière blanche masculine européenne dont nous rabat les oreilles Francis Cousin, si ces prix sont relativement bas, c'est précisément parce que cette classe ouvrière blanche masculine profite, non pas en tant que prolétaire, mais en tant que membre de pays occidentaux, en tant que blanc, donc, eh bien, de salaires extrêmement faibles dans les espaces périphériques du capitalisme, notamment en Asie du Sud-Est et aussi en Afrique, et en Amérique du Sud pour ce qui est des matières premières. Et en fait, c'est précisément ce qui permet aux prolétaires blancs d'avoir des produits peu chers sur un certain nombre de produits de consommation dans les pays européens qui va pousser à la migration économique. C'est-à-dire que, évidemment, si on a des salaires qui sont 10 fois plus élevés en Europe qu'en Afrique, précisément par ce mécanisme inégalitaire du système monde capitaliste qui bénéficient aussi aux prolétaires européens, forcément, les prolétaires africains, mexicains, sud-américains, etc., vont avoir envie d'aller vers ces pays où les salaires sont beaucoup plus élevés, précisément par la mécanique raciste dont bénéficient les prolétaires européens. Mais ça, c'est pour une part. Et d'autre part, l'essentiel des migrations sont liées aux ravages géopolitiques et climatiques qui sont liés au capitalisme européen et occidental de manière générale, et dont participe la classe ouvrière blanche masculine européenne. Donc on a évidemment les catastrophes naturelles qui sont liées au changement climatique, et évidemment on sait que c'est la classe capitaliste, notamment occidentale, qui est la plus responsable du dérèglement climatique, mais ensuite vient les Européens de manière plus générale. Et ces conséquences vont conduire à des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique dans les pays du Sud qui vont pousser à l'exil un certain nombre de personnes. Pareil pour les guerres. Ce sont des guerres qui souvent sont liées à la géopolitique des pays européens, notamment pour l'appropriation de ressources. Ressources qui sont dans une partie des produits de consommation des prolétaires européens. Donc, par exemple, il suffit de penser au coltan, notamment l'objet de la guerre civile au Congo, et qui se retrouve dans les portables de tout un chacun en Europe. Donc ce qu'on voit en réalité, c'est que les migrations ne sont pas organisées par le capital, mais elles sont le produit d'un système monde inégalitaire, raciste, impérialiste, dont bénéficient les prolétaires européens, et qui pousse, qui force souvent même à l'exil eh bien, des millions de gens chaque année, que ensuite, avec une hypocrisie incroyable, on rejette en les faisant mourir en Méditerranée, alors même que, évidemment, qu'ils ne se seraient pas exilés si on était dans un système monde capitaliste où les salaires des prolétaires européens et, par exemple, au Ghana ou au Mexique étaient équivalents. Mais sauf que Évidemment, ça, les prolétaires européens, même à leur corps défendant, en bénéficient. Donc, on voit bien que finalement, alors là, peut-être que c'est un peu provocateur, mais finalement, si Francis Cousin est contre les migrations, qui sont majoritairement des exils forcés, en fait, il devrait être contre le système raciste et impérialiste qui pousse un certain nombre de gens à s'exiler de leur pays.
Oui, et puis il faut aussi voir que derrière cette hantise du grand remplacement, qui est voilà, une hantise même d'ultra-droite, on peut dire, Renaud Camus est quand même quelqu'un qui est aussi récupéré par l'ultra-droite de rue. Et ici, Francis Cousin et Renaud Camus ont quand même un thème en commun assez clair. Il y a aussi l'idée d'une action politique extrêmement violente, c'est l'idée de remigration. C'est une idée qui a été développée par voilà, des proches de Renaud Camus. L'idée qu'il faut quasiment expulser,
déporter
même les immigrés ou même les enfants d'immigrés et les ramener dans leur pays. Quand même, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Ici, Francis Cousin, il n'est pas simplement... dans la théorie pure, il y a des actions politiques derrière extrêmement violentes, pas simplement séparatistes, mais même de déportation, voilà, qui sont induites. Donc, faut pas oublier ça. Alors certes, derrière cette idée-là, Francis Cousin, il veut juste affirmer la nécessité d'une identité révolutionnaire européenne, et son pseudo-projet, c'est une révolution, mais cette révolution identitaire, elle suppose des politiques, par exemple, de remigration extrêmement violentes. Et juste, je pensais aussi à quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le mythe d'une immigration qui sera organisée par le capital aujourd'hui. Malheureusement, des fois, même à l'extrême gauche, on voit des discours de ce genre. Il y a Mélenchon qui, il n'y a pas si longtemps, avait écrit un tweet en disant « Honte à ceux qui organisent l'immigration pour faire, en gros, pression sur les salaires européens ». Il pensait effectivement au grand capital. Et aussi, ce genre de sortie... à l'extrême gauche peuvent entretenir la confusion. C'est plus une digression là, et je dis pas que Mélenchon bien sûr est au niveau de Francis Cousin, bien sûr que non, mais voilà, ce genre de sorties même qui viennent parfois de la dite extrême gauche sont assez pernicieuses, et puis c'est un climat aussi, ce climat conspirationniste, c'est un climat je pense général dans les idéologies politiques d'aujourd'hui quoi. Donc
Et ce qui est intéressant, justement, encore avec la déclaration de Mélenchon, et qui est symptomatique, c'est qu'on ne recherche pas les causes, les racines de l'émigration, qui sont, en fait, un système monde capitaliste, impérialiste et raciste, qui fait que les salaires sont beaucoup plus bas dans certains pays que dans d'autres, que ces salaires bas bénéficient aux pays occidentaux, dans leur ensemble, y compris à leur prolétariat, qui du coup bénéficie de produits de consommation à des prix plus bas. Et donc finalement, si on voulait véritablement arrêter l'immigration, il faudrait en fait détruire en fait le système monde capitaliste, impérialiste et raciste, arrêter également le dérèglement climatique, etc., etc. Et le truc, c'est que pour faire ça, on ne peut pas en rester à la critique tronquée du capitalisme de Francis Cousin, qui ne prend pas en compte cette dimension colonialiste et impérialiste pour, entre guillemets, arrêter l'immigration forcée, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que d'en finir avec le capitalisme colonialiste et raciste, parce qu'il faut bien se dire qu'une majorité des gens qui émigrent le font pas de gaieté de cœur, parce qu'ils sont obligés de quitter souvent leur famille, etc., etc., mais souvent le font parce que le capitalisme européen, dont bénéficient les prolétaires européens, leur offre des salaires de misère, parfois a détruit le tissu économique de leur pays avec les plans d'ajustement structurel, la dette, etc., a tellement pollué que ça a entraîné des catastrophes climatiques, et aussi a déstabilisé ces pays par des logiques géopolitiques de puissance et capitalistes.
Et surtout, même, je pense que ça va même plus loin, c'est que chez Francis Cousin, on a la valorisation presque d'une identité européenne qui serait dynamique, qui serait aussi conquérante. Bon, ça se fait à travers la valorisation du prolétariat qu'on dit subversif. Mais si on valorise l'identité européenne avec Francis Cousin, on valorise aussi forcément l'Europe coloniale. Et ça, c'est implicite dans son discours, d'autant plus qu'il va avoir le même discours que les colonisateurs en disant que les sociétés extra-européennes serait statique, serait sans histoire, etc. On retrouve typiquement ce que dit Sarkozy dans le discours de Dakar, par exemple, en 2007, en disant que les sociétés africaines sont sans histoire. Donc là, clairement, on a des discours de droite, voire d'extrême droite colonialiste. Et étant donné que finalement, Francis Cousin, il adhère à ces discours coloniaux implicitement. Et c'est une raison de plus pour dire qu'il n'est absolument pas anticapitaliste, dans la mesure où le colonialisme est une partie intégrante du capitalisme. Donc voilà, en valorisant cette identité européenne, voilà, il prend avec lui ce qu'il appelle une dynamique historique, voilà, ce qu'il appelle le contraire des sociétés statiques, et dans cette dynamique, il y a aussi les colonisations. Pour ajouter à ça, je pense à Cézanne Rethel qui cite ça dans un de ses essais sur le travail manuel et travail intellectuel pour critiquer justement les dynamiques nationalistes et protectionnistes qui ont pu être à un moment donné colonialistes. Cécile Rhodes qui s'exprime dans le Times et qui dit « Pour protéger notre prolétariat qui demande du pain, il nous faut redevenir impérialistes. » Et voilà, ça c'est quand même une dynamique en 1895, hein, il dit ça. On a pu aussi justifier l'impérialisme colonial pour protéger les ouvriers nationaux, quoi, européens. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut ajouter. Et quand on voit ça, on voit très clairement dans quel camp impérialiste se range Francis Cousin finalement.
Oui, oui, et par rapport à ça, c'est vrai qu'effectivement, dans cette exhortation de la classe ouvrière blanche masculine, il y a un peu une apologie finalement de la colonisation de peuplement, auquel ont participé de nombreux prolétaires européens, souvent très pauvres et tout ça, qui sont allés aux États-Unis, au Canada, en Australie, pour voilà, coloniser ces pays. Eh bien, force est de constater que dans l'optique d'un renversement du capitalisme, eh bien, cette classe ouvrière blanche coloniale, eh bien, elle joue un rôle d'obstacle, puisqu'elle bénéficie d'avantages liés au capitalisme. Ce que l'historien marxiste Allen, dans The Making of the White Race, la fabrique de la race blanche, voilà, a théorisé comme étant des privilèges blancs. C'est-à-dire que c'est précisément parce que les prolétaires européens acceptent d'avoir des privilèges par rapport aux femmes et par rapport aux immigrés que, eh bien, ils deviennent progressivement un rempart du système capitaliste et qu'ils deviennent progressivement eh bien, conservateurs et contre-révolutionnaires. Ce qui fait que dans les années 70, pour revenir aux années 70, pour vous en parler, eh bien, le pouvoir, tout comme les révolutionnaires, considérait que c'était les travailleurs immigrés qui constituaient le véritable sujet révolutionnaire menaçant parce que la classe ouvrière blanche, d'une certaine manière, avait été achetée par le capital avec des privilèges liés à leur masculinité en termes de salaire, les hommes étant mieux payés que les femmes, et liés à leur blanchité, les ouvriers blancs étant mieux payés que les ouvriers non blancs. Donc d'une certaine manière, pendant les années 70, cette fameuse classe ouvrière blanche masculine dont nous rabat les oreilles Francis Cousin, elle joue plutôt un rôle contre-révolutionnaire, parce que c'est celle qui a le moins à gagner et le plus à perdre d'un renversement du capitalisme patriarcal et raciste.
Faut pas non plus retomber dans la mystique d'un sujet révolutionnaire. C'est un peu le risque dans ce que tu dis. Et il faut, on voit le risque en fait identitaire qu'il y a derrière. Il faut pas opposer une autre identité à l'identité ouvrière masculine blanche que pose Francis Cousin. C'est un danger aussi. Et je pense que voilà, il faut. Ce que montre Francis Cousin aussi, c'est les dangers de la mystique du sujet révolutionnaire. Et là, tu étais presque en train de dire qu'il y avait d'autres sujets révolutionnaires qui, voilà, qui étaient...
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, de par leur position dans la division du travail capitaliste, disons que les ouvriers blancs masculins étaient les moins susceptibles, disons, d'une action révolutionnaire, parce que c'était ceux qui gagnaient le plus et qui avaient le plus à perdre dans une modification du statu quo. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire que...
Il faut le dire négativement et non pas chercher une nouvelle identité positive d'un autre sujet révolutionnaire.
Bien sûr, c'est pour ça que je le disais dans la perspective d'une critique de la théorie de Francis Cousin.
Il faut rester sur la critique négative, je pense. Par ailleurs, je pense que ça questionne aussi, même à l'ultra-gauche ou à l'extrême-gauche, ça questionne aussi notre propre mythologie révolutionnaire qui est quand même parfois commune à celle de Francis Cousin, donc la commune de Paris, la commune espagnole, etc. en 36-37, qui sont que des expériences européennes. Et peut-être que nous aussi, on a tendance à se référer systématiquement à ces expériences européennes. Francis Cousin, du coup, il en fait l'idée qu'il y a une identité européenne en soi subversive. Et il s'appuie ici aussi peut-être à une tendance eurocentriste qui est aussi présente à l'ultra-gauche. Et peut-être penser d'autres formes d'expériences révolutionnaires qui ne sont pas européennes, voilà, c'est ce qui pourrait être beaucoup plus émancipateur et qui pourrait éviter totalement les confusions à la Francis Cousin, quoi.
Et en fait, justement, là où encore Francis Cousin est un complice du capitalisme colonial et raciste, c'est que ce qu'il oublie, c'est que si ces luttes de classe européennes ont pu être révolutionnaires, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas de système colonial qui les empêchait de s'organiser dans une certaine mesure, de bénéficier de salaires relativement suffisants pour qu'ils ne soient pas juste à crever de faim et c'est compliqué de s'organiser quand on crève de faim. Et donc, en réalité, si on voit, ce n'est pas, disons, l'Europe qui aurait un prolétariat intrinsèquement révolutionnaire, mais c'est simplement parce que l'Europe était le centre du capitalisme qui asservissait le reste du monde que les luttes de classe ont pu se développer là-bas, puisque dans le reste des pays, une grève était réprimée encore plus sévèrement qu'en Europe, les syndicats ont été interdits jusqu'à la fin de la colonisation, les salaires étaient extrêmement faibles, donc bon, c'était compliqué de constituer, par exemple, des caisses de grève, etc., etc. Donc, finalement, le fait même que l'Europe et coloniser le reste du monde, ce qui a évidemment apporté un certain nombre d'avantages, y compris à la classe ouvrière blanche masculine, eh bien ça a empêché cette colonisation, l'émergence de luttes de classe révolutionnaires dans le reste du monde. Précisément parce que, à partir du moment où on est colonisé, eh bien la première lutte à mener, c'est déjà de se décoloniser.
Parce et justement, que... lui, il fait de cette situation construite, en fait, une essence qui serait propre à ces société extra-européenne, une essence qui serait propre aussi à leur religion. Il y a tout un discours sur l'islam qui serait justement littéraliste et statique. Voilà, qui serait propre à ces sociétés d'être des sociétés sans histoire, des sociétés statiques. Il fait d'une situation construite liée à la colonisation, en fait, une essence en soi de ces sociétés. Là, il y a une pensée totalement idéaliste, identitaire et même raciste. C'est propre au racisme colonial, ça, vraiment, c'est... et que développe Francis Cousin, quoi. Et il faut opposer à son essentialisme un constructivisme anticolonial et anticapitaliste.
Oui, oui, bien sûr. Et en plus, surtout qu'on sait qu'il y a eu des luttes de classe révolutionnaires ailleurs qu'en Europe, historiquement. Bon, alors, avant le capitalisme, donc, les premières grandes luttes, ce sont les révoltes d'esclaves en Égypte et en Mésopotamie, donc pas en Europe, pour le coup. Et puis, depuis la décolonisation, il y a eu un certain nombre de révoltes relativement radicales dans un certain nombre de pays, qui prennent pas forcément la forme de l'ultra-gauche, de la classe ouvrière, disons, qui fait des grèves, etc., etc., tout simplement parce que le capitalisme là-bas n'est pas structuré de la même manière. Ce sont en général des pays non démocratiques parce que, justement, ce n'est pas des centres capitalistes en général. Mais on voit, par exemple, en Chine, qu'il y a des luttes de classe extrêmement fortes, des émeutes, des grèves, des méthodes extrêmement radicales et qui sont liées tout simplement au fait que c'est un pays qui a un prolétariat industrialisé. Donc, dès qu'un pays a un prolétariat industrialisé, on va retrouver ces luttes de classe radicales. Donc, c'est pas une question d'essence. Si on va en Hongrie au 19e siècle, on va pas trouver de lutte de classe révolutionnaire du prolétariat, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de prolétariat. Par contre, on va en 1956, et bien là, il y a un prolétariat. Même s'il y a un prolétariat qui fait une révolution des conseils. Alors même que, justement, les Slaves, les Hongrois étaient considérés par Engels comme des peuples sans histoire. Donc finalement, bon, tout est très relatif et en fait tout est lié vraiment à l'histoire, notamment du mode de production capitaliste.
Juste pour rajouter une chose, pour aussi complexifier le truc, à l'intérieur de son primitivisme, il y a aussi un mythe du bon sauvage derrière. Parfois, il valorise les sociétés Sioux, etc., qui seraient dans une unité avec la nature. Donc là-dessus, mais ça relève aussi de l'éthos colonial, qui essentialise et qui, voilà, le mythe du bon sauvage, ça relève de ça, c'est plus du racisme bienveillant, entre guillemets. Mais il y a ça aussi chez Francis Cousin, quand même. Et il faut souligner, voilà, c'est justement sur ces points-là qu'il pourra aussi éventuellement dire qu'il n'est pas raciste, parce qu'au contraire, il valorise les sociétés dites premières, voilà, ou les sociétés avant la civilisation, etc. Mais pareil, c'est toujours un biais raciste. Mais comme c'est du racisme bienveillant, il pourra faire passer ça pour une forme de critique en fait du racisme.
Oui, en fait, d'une certaine manière, c'est les Amérindiens, c'est génial, mais dans les réserves, Et il ne faut pas qu'ils émigrent dans les villes américaines, parce que sinon, ce sera des armes du capital, etc., etc. Donc, effectivement, voilà, Francis Cousin aime bien les personnes racisées dans des espèces de zoos. Voilà, parce que je pense pas que Francis Cousin proposerait la remigration de 200 millions d'Américains blancs en Europe.
Bah, sur les États-Unis, c'est différent parce que comme ils développent un anti-américanisme primaire, bah, au nom justement de la préservation de cette Europe, il va quand même dénoncer le génocide des Amérindiens, mais au nom de son anti-américanisme. Voilà, ça complexifie les choses, mais ça va dans le sens de cet anti-américanisme. Par contre, il va beaucoup moins dénoncer les colonisations européennes.
Bien sûr, et puis en plus, les États-Unis n'existent pas officiellement avant 1774, donc ceux qui opèrent une partie du génocide des Amérindiens, ce sont des Européens en fait, ce sont des colons irlandais, écossais, britanniques, anglais, gallois, français, scandinaves. Donc bon, c'est un peu hypocrite de sa part, puisque les États-Unis, à la base, c'est un prolongement colonial de l'Europe. Donc bon, on ne peut pas dire non, mais c'est les méchants Américains qui ont fait ça au début. Ce sont des Européens, et pareil ce qui se passe avec les aborigènes en Australie, ce sont des colons anglais à la base. Alors après, peut-être pour finir sur cette idée d'un petit peu de peuple sans histoire, qu'on voit qu'il y a une notion un peu floue chez lui, parce qu'à la fois il en fait l'apologie, parce que
Il
quand
parle
il dit
plus
parler des
de...
sociétés de chasseurs-cueilleurs, il fait l'apologie des sociétés de chasseurs-cueilleurs en tant que peuple sans histoire. Les Germains, c'est pareil. Donc, et après il dit, ah non, mais c'est pas bien les peuples sans histoire quand ils émigrent. Et par rapport à ça, ce qu'on peut simplement lui opposer, et il en parle aussi lui-même, mais à mon avis, mais pas de la bonne manière, c'est Clastres. Clastres montre bien comment est-ce que les sociétés amérindiennes, loin d'être des peuples sans histoire, ont une histoire, et cette histoire, c'est notamment la lutte contre des mécanismes de centralisation du pouvoir, qui ont d'ailleurs beaucoup mieux réussi chez eux qu'en Europe. Donc peut-être que...
Mais il cite régulièrement justement cet anthropologue, mais au nom de voilà de son fantasme mythologique plus, hein, c'est jamais de façon scientifique qu'il le fait.
Peut-être deux dernières choses. Donc d'une part, il y a quand même l'idée d'une homogénéité de la classe ouvrière blanche qui est postulée. Or, cette homogénéité, cette unité, elle est largement fantasmée. On sait que il y a eu des affrontements violents au sein de la classe ouvrière blanche masculine au XIXe siècle. Le massacre notamment d'Aigues-Mortes en 1883, c'est un très grand massacre de migrants italiens par des ouvriers français. Donc, bon, la classe ouvrière européenne s'est aussi entre-massacrée entre 1914 et 1918. Il y a eu un racisme anti-belge, anti-polonais, anti-italien de la part des ouvriers français tout au long du XIXe siècle. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'actualité, les ouvriers français à cette époque, grâce à la CGT, ont pu renforcer leur position de classe face au capital, non pas avec, comme Francis Cousin, avec des discours racistes contre, voilà, les immigrants, la migration organisée par le capital, etc. Ce qui en plus était pour le coup était effectivement en partie le cas, mais au contraire, en disant, peu importe la nationalité, l'origine, etc. Il faut qu'on s'unisse en tant que classe contre le capitalisme. Et c'est pour ça que finalement, le syndicalisme révolutionnaire des années 1895-1914 a pu renforcer sa position et qu'en France, le rapport de force en faveur des ouvriers était bien meilleur à cette période-là, où il y avait justement une espèce d'unité antiraciste de la classe ouvrière, alors, toujours relative, hein, pas complète, mais quand même relativement importante grâce à des principes internationalistes, que à la période précédente où au contraire la classe ouvrière était divisée entre Parisiens et provinciaux, Italiens et Français, Belges et Français, Polonais et Français, ce qui favorisait eh bien un écrasement généralisé de la classe ouvrière par la classe capitaliste. Donc pour aujourd'hui, contre ce que dit Francis Cousin, il faut rappeler que la meilleure manière de lutter contre le capital, ce n'est pas de s'affronter avec une autre partie du prolétariat, ce qui évidemment divise la classe ouvrière, l'affaiblit face au capital et la détourne voilà, de la lutte contre le capital, mais au contraire, c'est justement en cherchant à abolir au maximum, à la fois idéologiquement et matériellement, les barrières racistes au sein du prolétariat.
Après, le paradoxe aussi, tu parlais d'internationalisme, c'est qu'il reprend à son compte le mot d'ordre prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et voilà, à la fin de son ouvrage, là, il reprend ça. Alors, comment interpréter ça dans le langage de Francis Cousin? Sa référence est aussi la première internationale. Est-ce que c'est prolétaire de tous les pays européens? Comment toi, tu l'interpréterais, cette sortie de Francis Cousin?
Bah, je pense qu'effectivement, ça s'adresse avant tout aux prolétaires blancs, en fait, hein, puisque de toute façon, les autres prolétaires sont vus comme une armée de réserve du capital, justement, ayant un rôle intrinsèquement contre-révolutionnaire, comme les lumpen prolétaires. Il reprend cette formule prolétaire de tous les pays, unissez-vous, parce que je pense qu'en réalité, il ne considère comme prolétaires que les bons prolétaires, blancs, masculins, etc., les autres n'étant même pas digne d'être des prolétaires. Parce que ça va de pair avec sa vision que finalement les femmes ne devraient pas travailler en tant que prolétaires, devraient rester à la maison et les immigrés devraient rester chez eux et croupir dans leur misère créée par le capitalisme colonial. Donc d'une certaine manière, il s'adresse dans Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, uniquement aux prolétaires qu'il considère comme légitimement prolétaires, c'est-à-dire les hommes blancs.
Oui, et puis c'est vrai que la notion de prolétaire chez lui, elle est liée à cette dynamique historique qu'il décrit. Et pour lui, les seules sociétés dynamiques, c'est les sociétés européennes. Donc peut-être que même pour lui, dans les sociétés qu'il appelle statiques, donc il dit les sociétés islamo-africaines et l'Orient, donc de façon totalement abstraite, dans ces sociétés, il n'y a même pas de prolétaire parce qu'il n'y a pas cette dynamique qui permet ce qu'il appelle le prolétariat. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il faut l'interpréter comme ça. Son mot d'ordre, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, n'est pas vraiment internationalisme. Faut peut-être comprendre de tous les pays européens.
Ouais, et prolétaires masculins blancs de tous les
Voilà.
pays européens, unissez-vous.
Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est à travers toutes ces confusions qu'il est difficile voilà, de faire la part des choses et de le critiquer. C'est pour ça qu'il faut entrer dans le détail du texte.
Et justement, là, on va lire une citation, donc page 25 de Être contre l'avoir.
Donc du coup, dans cette citation, il va justement citer Marx sur l'idée de l'armée de réserve, et il va pouvoir appuyer son idée que l'immigration est organisée par le capital. Donc il dit d'abord, en confirmation de ce qu'a montré l'exploration généalogique du capital, en son fameux morceau consacré à la loi générale de l'accumulation capitaliste, les espaces marchands les plus développés connaissent aujourd'hui une considérable immigration de peuplement qui substitue peu à peu des populations venues du sud lointain aux anciens peuplements traditionnellement européens. Donc le terme de substitution, déjà, c'est un terme que Renaud Camus utilise beaucoup. Renaud Camus, il a eu cette phrase atroce récemment en disant que l'immigration organisée aujourd'hui, c'est un génocide de substitution. Il compare ça à une dynamique génocidaire. Et c'est pour ça qu'il dit que l'Europe aujourd'hui est nazie. C'est horrible hein, ce que dit Renaud Camus, mais je retrace ce qu'il dit, au sens où c'est le remplacement culturel. Voilà. Ce qu'il appelle le remplacement culturel, il appelle ça un génocide de substitution. Donc le terme de substitution est très violent. Il identifie Francis Cousin à des thèmes de l'ultra-droite radicale comme ceux de Renaud Camus, il faut peut-être pas l'oublier. Donc je continue la citation. Les immigrés y constituent là plus que jamais l'armée de réserve du capital, théorisée par Marx, qui a notamment rapporté cette retentissante formule dans le livre 1 du Capital. Donc Marx dit, et là il est cité par Francis Cousin, remplacer une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l'homme par la femme, l'adulte par l'adolescent et l'enfant, un Yankee par trois Chinois. Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l'offre surabondante, en un mot, pour fabriquer des surnuméraires. Donc c'est l'argument marxien que Francis Cousin utilise, l'armée de réserve du capital, pour critiquer ce qu'il appelle l'immigrationnisme. Et peut-être qu'il faut non seulement déconstruire cette idée marxienne, mais aussi peut-être montrer que Francis Cousin, il l'a complètement instrumentalisé à des vues identitaires.
Et je pense que cette question justement des salaires, elle est extrêmement intéressante parce que en réalité, ce remplacement à l'avantage du capital ne fonctionne que tant qu'il y a une inégalité de salaire entre hommes et femmes et entre blancs et racisés. Or, justement, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, la classe ouvrière blanche masculine n'a pas voulu de l'égalité de salaire, alors même que cette égalité de salaire aurait fait que, eh bien, ils n'auraient pas pu être remplacés par des femmes ou des immigrés parce qu'ils avaient des salaires inférieurs. Donc finalement, si la classe ouvrière blanche masculine s'était battue pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes et entre les blancs et les non-blancs, eh bien, le capital ne pourrait pas tirer avantage de ces populations ayant des salaires plus bas. Et donc, on voit bien là-dessus que finalement, la classe ouvrière blanche masculine, au nom de ses privilèges salariaux par rapport aux femmes et par rapport aux immigrés, c'est-à-dire un salaire légèrement supérieur, une possibilité d'avancement, des conditions de travail moins difficiles, etc., a souvent fait le jeu du capital en permettant au capital d'avoir une main-d'œuvre moins chère. Donc finalement, la classe ouvrière, au nom de sa masculinité et de sa blanchité, des privilèges matériels afférents, eh bien, finalement, a fait le jeu du capital. Donc, on voit que la phrase finalement de Marx qu'il cite peut être complètement retournée. En réalité, les immigrés ou les femmes ne sont pas un salaire intrinsèquement, naturellement inférieur à celui des hommes blancs ouvriers. C'est là le produit d'une construction historique qui pouvait être défaite par la classe ouvrière masculine blanche et qui trop souvent ne l'a pas été. Ce qui évidemment s'est retourné aussi contre les ouvriers blancs masculins parce que à partir d'un certain moment, ils ont pu être remplacés dans certains domaines par des femmes ou des immigrés. Mais on rajoutera quand même que très souvent, il y a eu un compromis entre les ouvriers blancs et le capital pour dire « d'accord, vous pouvez ouvrir certains postes à une main-d'œuvre moins chère, féminine et immigrée, mais en échange, nous, on garde les bons postes, ou les moins mauvais postes, disons, avec des salaires plus élevés, des possibilités d'avancement, etc. » C'est ce que, par exemple, Sylvia Walby montre, par exemple, au milieu du 19e siècle, en Angleterre, où il y a un compromis entre le prolétariat masculin et le capital pour limiter le travail des femmes, les cantonner à certains postes, etc., etc. En réalité, la structure, la division raciale et genrée du processus de production capitaliste est l'objet historiquement, jusqu'à aujourd'hui, d'un compromis entre la classe ouvrière blanche masculine et le capital. Et ça, c'est quelque chose que même Marx ne semble pas pointer, même s'il devait peut-être avoir conscience effectivement de cette dimension, et surtout que Francis Cousin oblitère complètement.
Et surtout, quand il dit remplacer l'homme par la femme, Marx à ce moment-là, Francis Cousin entend les femmes qui se mettent à travailler perdent aussi leur identité qui est d'être au foyer, qui est d'être plutôt dans la sphère de la reproduction, et elles se dénaturalisent. C'est ça aussi sa critique de l'indistinction, c'est les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. Donc il y a cet essentialisme chez Francis Cousin qui n'a rien à voir avec ce qu'a pu dire Marx en fait. C'est-à-dire qu'il va interpréter ça dans une direction complètement patriarcale. Et si on voit qu'au contraire, le capitalisme il se base aussi sur une dissociation que Roswitha Scholz appelle sexo-spécifique, l'assignation des femmes aussi à la sphère de la reproduction dans le foyer privé est aussi une spécificité du capitalisme patriarcal. Et finalement, Francis Cousin, il va essentialiser cette position et il va défendre finalement cette position. Et ce qui montre une fois de plus qu'il défend un capitalisme patriarcal. Donc du coup, on peut dire de toute façon qu'il va totalement entendre la phrase de Marx de façon essentialiste, identitaire et patriarcale. Et que quand il lit « remplacer l'homme par la femme », lui, il lit « dénaturation de la femme ». Masculinisation de la femme et féminisation de l'homme de façon totalement essentialiste et sexiste. Donc ne serait-ce que ces thèmes de dénaturation de la femme sont totalement sexistes. Et donc du coup, c'est pas aberrant de dire qu'il tord complètement l'idée marxienne et aussi l'historicisme marxien. Et par ailleurs, ce qui est aberrant, c'est de se dire qu'il a lu le mot « remplacer », donc chez Marx, « remplacer une force supérieure et plus chère » par plusieurs forces inférieures à bon marché, presque dans le sens du grand remplacement de Renaud Camus. Et là, c'est carrément délirant. Et on peut dire que c'est absolument pas du tout ce qu'a voulu dire Marx. Donc voilà, il y a une confusion chez Francis Cousin entre des thèmes vraiment d'ultra-droite et soi-disant des termes marxiens.
Et d'ailleurs, bon, sur cette question du remplacement, en fait, la réalité le contredit, puisque en France, les hommes sont moins au chômage que les femmes et les blancs sont moins au chômage que les immigrés, de par le fait qu'il y a une discrimination à l'embauche qui est en défaveur des femmes et des immigrés. D'autre part, ce que Francis Cousin oublie, c'est que le fait d'assigner les femmes à la sphère domestique, comme tu l'as dit, est effectivement, une caractéristique du capitalisme jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, ça avantage bien le capitalisme, puisque ça lui permet qu'une partie de la reproduction sociale de la force de travail soit gratuite, soit faite gratuitement par les femmes, c'est-à-dire que laver, nourrir, blanchir, s'occuper du soin des enfants, etc., etc., qui participent à la reproduction du prolétariat comme classe du capital, eh bien, comme ça, c'est fait gratuitement par les femmes, et donc ça avantage bien le capitalisme. Et dernière chose, en fait, ce que Francis Cousin, lorsqu'il finalement fait l'apologie des femmes au foyer qui ne travaillent pas, en fait, il essentialise la famille petite bourgeoise blanche. Parce que c'est uniquement dans les familles petites bourgeoises blanches du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle que les femmes ne travaillent pas. Sinon, dans les familles paysannes et artisanales jusqu'au 18e siècle, les femmes travaillent. Il y a eu des femmes dans les corporations jusqu'à une certaine époque, avant que les hommes les en expulsent. Les femmes s'occupaient d'une grande partie des travaux agricoles. Les femmes, même dans les sociétés de chasse et de cueillette, s'occupaient de 70% de l'approvisionnement en nourriture à travers la cueillette et l'horticulture. Les femmes ouvrières travaillaient. Donc finalement, en fait, l'image de la femme de Francis Cousin, qui soi-disant est éternelle et transhistorique et positive, en fait, c'est l'image des femmes de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie blanche. Et je rajoute blanche parce que les femmes noires aux États-Unis, elles travaillaient dans les champs de coton, elles n'étaient pas chez elles à faire le ménage.
Et surtout, c'est encore plus visible, cette essentialisation du patriarcat capitaliste dans sa façon qu'il rétroprojette aussi cette situation sur les sociétés qu'il qualifie de primitives, en disant la femme c'est le panier et l'homme c'est la chasse d'une certaine manière. Et il naturalise une division sexuelle du travail à travers son fantasme des sociétés cosmiques, primitives, complètement délirant. Donc voilà, il y a aussi de façon très typique cette rétroprojection qui va servir son essentialisation sexiste en fait.
Oui, et peut-être pour finir simplement sur le concept d'armée de réserve. Bon, c'est un concept qui est, je pense, aujourd'hui, depuis les années 70, relativement inopératoire, puisque finalement, les prolétaires assisés dans les banlieues ne forment pas tellement une armée de réserve au sens où le capital en aurait chroniquement besoin. Au contraire, ce qu'on constate dans les banlieues, c'est un taux de chômage énorme et des difficultés énormes à se faire employer. Ça ne joue pas le rôle d'une armée de réserve. Là, encore une fois, Cousin extrapole un concept de Marx et l'utilise aujourd'hui de manière inopérante. Après, peut-être pour finir simplement sur cette question d'immigration, revenir sur ce point où finalement il va mettre en lien la contraception et l'avortement d'une part et le regroupement familial. Donc il y a un truc quand même, il fallait y penser quoi.
Mais ça, déjà avant de le dire, ça peut paraître même choquant de critiquer cette idée tellement elle-même est paranoïaque et choquante. C'est pour ça que c'est important, ne serait-ce que de citer ses livres, parce qu'il y a des phrases vraiment délirantes. Il faut d'abord dire qu'immédiatement, on voit à quel point Cousin, il va très loin dans la pensée sexiste et paranoïaque, quoi. Et je pense qu'on peut essayer de le critiquer, mais déjà dire que en soi, ça montre à quel point c'est une pensée vraiment conspirationniste et au nom du sexisme le plus violent et au nom de la légitimation de la violence patriarcale, quoi.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que pour le coup, on ne voit pas trop le lien en fait, entre les deux cas, puisque bon, voilà, l'avortement et la contraception ont fini par être accordés provisoirement pour 5 ans en 1974-75, après 5 ans de lutte féministe acharnée, contre l'avis d'une majorité des députés qui représentaient le capitalisme gaulliste. Donc, une partie, évidemment, par la discipline de parti, a fini par se rallier au projet, mais il y avait une hostilité très forte dans le parti gaulliste, qui était pourtant le parti qui allait diriger la modernisation du capital de 1958 à 1974. Donc, déjà, on peut clairement dire que le droit à l'avortement est clairement pas un produit du capitalisme, mais bien un produit des luttes féministes, et qu'il a fallu que ça ait été une victoire des femmes de haute lutte contre l'avis d'une bonne partie de la bourgeoisie politique gaulliste de l'époque.
Mais faut aussi rappeler l'idée vraiment délirante de Francis Cousin, c'est que la contraception et l'avortement, pour lui, sont des conspirations du capital pour faire diminuer démographiquement le prolétariat révolutionnaire européen. C'est vraiment du délire. C'est complètement non factuel, et c'est vraiment ce délire-là qu'il y a chez Francis Cousin, qui du coup est directement lié à son délire de grand remplacement. Si vraiment on essaie de traduire ce qu'il dit, c'est que des immigrés extra-européens menacent non seulement l'identité du prolétariat européen, qui en plus est menacé démographiquement parce qu'il y a la contraception et l'avortement. Donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est horrible vraiment comme pensée, c'est contrefactuel et complètement conspirationniste. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on voit en quoi les pensées du grand remplacement raciste peuvent être directement connectées à des pensées radicalement patriarcales et qu'elles se complètent très bien. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on lit les penseurs d'extrême droite, c'est de voir qu'en fait, patriarcat et racisme, par exemple, ne sont pas déconnectés, mais sont prises dans une totalité cohérente pour eux. Et là, on voit à quel point cette totalité est cohérente. Mais c'est une totalité paranoïaque, c'est une totalité conspirationniste, quoi.
Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, dans le cas de l'immigration des années 70, il faut revenir quand même brièvement sur cet épisode. Bon, déjà, en rappelant, même si ça a déjà été fait dans la première partie de l'émission, que, je veux dire, 3 ans avant le droit à l'avortement, l'immigration de travail a été drastiquement stoppée en France par la circulaire Marcellin-Fontané. Donc, bon, on peut difficilement y voir une volonté de grand remplacement. Si on arrête l'immigration de travail, c'est précisément aussi pour éviter ça. Et en réalité, le regroupement familial, loin d'être une manœuvre du capital pour remplacer la population blanche soi-disant radicale, même si elle avait été beaucoup moins radicale au début des années 70 que les travailleurs immigrés, eh bien en réalité, c'est une mesure qui a été accordée par le Conseil d'État, précisément parce que ben, la logique du droit à la vie de famille en France, qui était quand même une des bases de la société bourgeoise, que d'ailleurs défend Francis Cousin, eh ben, ce droit à la famille a été jugé bon, indispensable par le Conseil d'État, qui a donc autorisé le regroupement familial. Donc, bon, finalement, le regroupement familial, voilà, c'est d'une certaine manière voilà, quelque chose qui a été arraché par la classe ouvrière immigrée, voilà, dans un climat de racisme extrêmement fort. Voilà, qui a réussi à obtenir cette décision de justice qui n'avait pas d'intérêt capitaliste ou de projet démoniaque de remplacement de la population ailleurs. Sinon, évidemment, on n'aurait pas arrêté l'immigration de travail. Et si d'ailleurs le capital voulait vraiment remplacer la population européenne, je pense qu'elle ne dépenserait pas des milliards d'euros pour empêcher les migrants d'arriver jusqu'en Europe, puisqu'on compte chaque année des milliers de morts dans la Méditerranée. Donc, ce qui est une drôle de manière d'organiser le remplacement de la population européenne en entraînant la mort de milliers de migrants en Méditerranée et aux frontières de l'Europe chaque année.
Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est important de contredire évidemment cette pensée paranoïaque, même si ça peut paraître extrêmement évident. Mais ce qu'on peut voir aussi peut-être, c'est que ce qui prévaut chez ce genre de théoriciens, c'est peut-être une haine d'abord, un affect, une haine des femmes, une haine des homosexuels, une haine des immigrés, etc. Et que, comme on se dit anticapitaliste, on va essayer de justifier cette haine en connectant cette haine à son anticapitalisme. Et peu importe finalement la véracité des faits, ce qui importe, c'est de démontrer en fait, par exemple, que les mouvements féministes et antiracistes sont directement pris dans la logique libérale. Mais ici, c'est pas tant les faits qui importent pour Francis Cousin que la justification pseudo-théorique de sa haine en fait. Et cette haine, elle est très présente dans sa façon d'écrire ou dans sa façon de parler. Parfois, sur la question de sa transphobie, il va parler de l'aberration transgenre, il va parler de la perversion homosexuelle. On voit que la haine suinte dans son discours. Et en fait, il essaie juste de théoriser cette haine, et peu importe les faits finalement. Et ça, faut quand même le rappeler aussi. C'est important effectivement de contredire son discours sur le plan historique. Mais il faut peut-être rappeler aussi quelque chose d'évident, c'est que c'est quelqu'un qui a juste une haine viscérale contre tout ce qui n'est pas lui, finalement, un homme blanc occidental, et qui va essayer de justifier sa haine dans un discours pseudo-émancipateur, mais en fait réellement violent et régressif.
Oui, effectivement, tu as raison de rappeler ça. On va du coup voilà, rappeler un petit peu là, successivement, à la fois son mépris des personnes racisées, son mépris des lumpen prolétaires, entre guillemets, et puis son mépris des femmes, des personnes transgenres, des homosexuels, des musulmans et
Les
des
juifs.
juifs. Voilà. Alors, peut-être en commençant, du coup, parce qu'on était sur la question de l'immigration par le racisme, voilà, avec une citation, page 21 de La Société de l'Indistinction.
Donc voilà, on parlait de la haine et on voit clairement la haine raciste la plus décomplexée qui s'exprime dans ses livres. C'est pour ça que c'est important aussi de lire ses livres parce qu'il n'est peut-être pas aussi clair dans ses vidéos. Donc dans ses livres, on peut se rendre compte à quel point ça va très très loin dans le racisme. Et là, il dit tout simplement, page 21, dans la critique de la Société de l'Indistinction, il dit, je cite, Il ne reste ainsi plus au black, appellation fétichiste purement spectaculaire, qu'à parachever le délire et la confusion de l'indistinction contemporaine en traitant ceux qui n'entrent pas dans leur représentation spectaculaire de sales blancs et à devenir ainsi encore plus racistes que ce que les blancs pourraient être. Donc là, c'est typique du thème d'extrême droite du racisme anti-blanc. Et il critique par ailleurs, dans les mêmes passages, l'expression « black is beautiful » qu'il trouve répugnante. Donc là, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est le racisme le plus débridé qui s'exprime dans ses livres. Et peut-être une autre citation.
Page 23.
Page 23, où là, on voit aussi clairement que sur l'histoire coloniale, il a clairement choisi son camp. Donc où il dit « à mi-chemin d'une européanité toujours plus dépréciée et d'une africanité toujours plus adulée, le spectacle de l'indistinction a balisé sa norme de multiculturalité indifférenciante en une représentation schizophrénique où l'Européen doit de plus en plus se culpabiliser à mesure que l'Africain doit, lui, de plus en plus se victimiser. » Donc là, pareil, il y a clairement la volonté, sur la question de la mémoire des colonisations, de réaffirmer une européanité qui serait conquérante et clairement un discours qui va dans le sens du discours colonialiste.
Et puis une forme de négationnisme aussi. Hein.
Ouais, une forme de négationnisme. Pour lui, en fait, il appelle, par exemple, ce qu'il appelle les jeunes de banlieue, il les appelle les enfants chéris du capital. Il délire complètement sur l'idée qu'ils seraient particulièrement valorisés à travers, par exemple, la culture rap. Et justement, il a clairement une haine de ces personnes qui va associer au lumpen prolétariat, donc qui va en fait être ce segment de la population qui viendrait menacer l'identité blanche du prolétaire ouvrier et qui appartiendrait en fait à une sorte de classe contre-révolutionnaire. Donc ça s'appuie justement déjà sur son idée qu'il y aurait des sociétés sans histoire, des sociétés statiques, mais aussi cette idée que dans les banlieues, par exemple, ce serait le règne du fric et le règne presque de ce qu'il appelle une dégénérescence. Donc il y a un très gros racisme à ce niveau-là. Et lui, il justifie son racisme, une fois de plus, en se référant à la notion marxienne de lumpen prolétariat.
Oui, c'est assez fou tout ce que tu viens d'évoquer.
Voilà, ouais. Moi juste pour dire, je pense que ces citations, il ne faut pas non plus pour autant perdre son temps à les critiquer en avançant d'autres faits. Il faut juste voir juste que c'est du racisme scandaleux et que ne serait-ce que les lire suffit pour vraiment se rendre compte de à qui on a affaire en fait.
Oui, bien sûr, parce que c'est une inversion systématique de la réalité. Dire que les jeunes de banlieue sont valorisés par le capital alors qu'ils constituent la part de la population la plus pauvre en France, avec peut-être les populations dans les zones rurales. D'autre part, quand il va dire que finalement on culpabilise les Européens et que finalement on glorifie un petit peu les Africains, alors que dans les représentations qu'on a dans les médias, on valorise les personnes blanches, on valorise pas du tout les Africains, bien au contraire. Et finalement, lui, ce à quoi il appelle, c'est une espèce de suprémacisme blanc assumé et fier, voilà, un petit peu comme les suprémacistes blancs aux États-Unis. Et pour finir sur cette notion de racisme anti-blanc, en fait, finalement, c'est assez caractéristique quand même. On voit bien que là, il n'a pas du tout une approche matérialiste, mais que c'est vraiment un idéaliste, voilà, comme ceux que critiquait Marx dans l'idéologie allemande, puisque, voilà, il considère le racisme uniquement comme une espèce d'hostilité ou de discours, alors que le racisme, c'est principalement un système de discrimination, de violence policière, de surexploitation par l'inégalité de salaire, de ségrégation au niveau du logement, etc., etc., qui vise les populations non racisées et dont bénéficient précisément les Blancs, qui, eux, ne sont pas touchés par toutes ces mesures de discrimination, par ces violences policières, etc., et voilà, qui en bénéficient à la fois parce qu'ils n'y sont pas touchés, puis aussi parce que si on discrimine les personnes racisées à l'embauche ou au logement, ça veut dire que les personnes blanches, elles, sont favorisées, du coup, à l'embauche ou au logement.
Après, cette idée qu'il faudra en arrêter avec une forme de repentance liée à la colonisation, le problème, c'est qu'elle est défendue aussi, même par des courants politiques centristes. Quand on voit Macron, quand il va en Algérie, un jeune Algérien lui dit, parle de l'Algérie française, justement, et Macron dit, ça, on l'a dépassé. Maintenant, on regarde vers l'avenir, on va arrêter avec la repentance. Voilà, et ça va dans le sens de l'air du temps aussi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces discours sont portés par l'État français aujourd'hui, qui assume encore finalement sa colonialité passée, donc, et qui en même temps se déresponsabilise en disant qu'on est passé à autre chose. Et finalement, voilà, ce qu'il faut voir, c'est aussi ce discours, voilà, qui participe finalement d'un racisme institutionnalisé, et Francis Cousin adhère complètement à ce discours.
Alors peut-être juste pour finir sur la question du lumpen prolétariat, il y a une citation là-dessus qui est assez intéressante, donc page 31, dans justement la société de l'indistinction.
Bah oui, justement, pour justifier son racisme concernant les quartiers populaires et concernant les immigrés, il va utiliser dans la société de l'indistinction une citation d'abord de Engels dans la préface à la guerre des paysans. Je pense que rien que la citation de Engels, elle pose problème. Je pense que Engels, déjà, lui, pose problème ici, et que c'est l'occasion aussi de revenir sur ce que dit Engels. Donc Engels, il dit « Le lumpen prolétariat, cette lie d'individus déchus de toutes les classes qui a son quartier général dans les grandes villes, est, de tous les alliés possibles, le pire. Cette racaille est parfaitement vénale et tout à fait importune. Quand les ouvriers français portèrent sur les maisons pendant les révolutions l'inscription « Mort aux voleurs » et qu'ils en fusillèrent même plus d'un, ce n'était certes pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait avant tout se débarrasser de cette engeance. Tout chef ouvrier qui emploie cette racaille comme garde du corps ou s'appuie sur elle démontre par là qu'il n'est qu'un traître. » Fin de la citation de Engels. Et il y a une autre citation que Francis Cousin utilise, donc de Marx dans La lutte des classes en France, où Marx dit, je cite, « Le lumpen prolétariat constitue dans toutes les grandes villes une masse nettement distincte du prolétariat industriel, pépinière de voleurs et de criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, individus sans métier avoué, rôdeurs, gens sans aveu et sans feu, différents selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, ne démentant jamais le caractère de Lazzaroni. » Donc, d'une certaine manière, il y a cette mystique, voilà, du sujet révolutionnaire ouvrier qui serait justement vertueux. Peut-être qu'il serait vertueux aussi parce qu'il travaille et que donc du coup, il y a une valorisation de la valeur travail derrière, qui serait vertueux, juste, droit, etc. Et il y aurait les classes contre-révolutionnaires qui menaceraient justement la vocation révolutionnaire des ouvriers, que Marx et Engels appellent le lumpen prolétariat, qui sont plus, voilà, dans des formes de petite criminalité, etc. Et donc, du coup, Francis Cousin va utiliser ces citations pour penser aujourd'hui la question des quartiers populaires de façon totalement raciste, et toujours dans son cadre de grand remplacement. Dire, voilà, ces quartiers populaires menacent la vocation révolutionnaire du bon prolétariat vertueux français ou européen. Donc ça, il faut évidemment le déconstruire, mais il faut peut-être en passer aussi par, du coup, la critique de Marx et Engels sur ces notions-là. Je ne sais pas ce que toi, tu aurais à en dire.
Bah, je pense que, voilà, sur cette question du lumpen prolétariat, on voit bien comment est-ce que, finalement, Marx, Engels et Cousin restent finalement dans une apologie du travail capitaliste. C'est-à-dire que finalement, il faut être un bon travailleur quand même pour être un sujet révolutionnaire. Alors qu'au final, le lumpen prolétariat, en refusant finalement le travail, fait peut-être autant, voire plus obstacle à la valorisation du capital que les prolétaires. Donc après, bon, c'est un vaste débat. Effectivement, le lumpen prolétariat a pu parfois servir de classe contre-révolutionnaire. Mais il y a eu aussi énormément d'ouvriers qui ont été contre-révolutionnaires, les syndicats jaunes, par exemple. Donc finalement, bon, je pense que cette critique du lumpen prolétariat ressort principalement d'un mépris de classe. C'est pas tellement une question politique ou stratégique.
Et surtout dire ensuite que d'une certaine manière, la position de Marx aujourd'hui sur les quartiers populaires a été une position de mépris à partir de cette citation sur le lumpen prolétariat. C'est encore une fois un glissement qui n'est pas du tout rigoureux historiquement, puisque c'est quelque chose de totalement anachronique quand on prend en compte le développement du capitalisme au XXe siècle. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais à penser de cette mise en relation justement entre le lumpen prolétariat et ce que Francis Cousin appelle les jeunes de banlieue?
Bah, je pense que, enfin, il y a l'idée finalement que, voilà, les jeunes de banlieue, ils sont pas révolutionnaires, c'est des complices objectifs du capitalisme, tout comme effectivement Marx et Engels un petit peu pensaient ça du lumpen prolétariat parisien en 1848. Alors qu'en réalité, il y a des vraies luttes de lumpen prolétaire pour le coup. Les luttes de l'immigration, les luttes dans les foyers Sonacotra. De travailleurs immigrés dans les années 70. Il y a le mouvement immigration banlieue. Il y a également les luttes même des travailleuses du sexe qui sont considérées avec mépris par Engels et Marx comme des lumpen prolétaires, mais qui en réalité vendent leur force de travail d'une certaine manière et qui mènent aussi des luttes parfois aussi anticapitalistes aujourd'hui.
Ou la conscience des violences policières racistes qui existent depuis une quarantaine d'années dans les quartiers populaires et qui soudainement surgit avec la répression des gilets jaunes. Mais voilà, il y a une expérience aussi de ce côté-là qui crée une conscience critique par rapport à l'état policier, beaucoup plus développée dans les quartiers populaires. Ça, Francis Cousin, il est bien incapable de le voir parce qu'il a juste une pensée raciste, haineuse et essentialiste. Donc pour lui, tout doit entrer dans sa grille de lecture.
Bien sûr, et en plus, il oublie que, bien, les, voilà, par exemple, les situationnistes parlent des blousons noirs dans leur brochure de la misère en milieu étudiant, sur laquelle on a fait une autre émission. Et évidemment, ils sont quand même critiques, ils ne sont pas uniquement dans une apologie. Il ne s'agit pas ici non plus d'être dans une apologie du lumpen prolétariat qui serait plus révolutionnaire que le prolétariat. Mais ils disent bien que, voilà, en refusant le travail, effectivement, ils sont quand même dans une forme de contestation du capitalisme en s'affrontant avec la police, etc., etc. Et on voit que, par exemple, un quartier très lumpen prolétaire, entre guillemets, qui est celui de Exarchia à Athènes, en fait, le lumpen prolétariat peut être au cœur de la contestation, comme c'est le cas justement dans ce quartier grec.
Surtout qu'il y a peut-être aussi une contradiction à citer Debord, parce qu'il y a des courants situationnistes, on ne dit pas situationnistes, mais des courants auxquels Debord a appartenu qui étaient illégalistes, et qui justement prônaient l'émeute, le vol, etc. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Quand, voilà. Debord avait écrit un texte sur les émeutes
de Watts.
Voilà, tout à fait, où il expliquait que le pillage et les émeutes, c'était une façon aussi de remettre en cause la marchandise. Bon, c'était peut-être une façon un petit peu partielle d'expliquer le phénomène, mais en tout cas, il y avait un soutien direct de la part de Debord à ces émeutes.
Et Francis Cousin dit précisément le contraire. Lui, voilà. Il pense que les émeutes, c'est une adoration de la marchandise.
Oui, pour lui, les émeutes de 2005, dans les banlieues, c'était les émeutes au nom de la marchandise, ce qui est complètement aberrant, et surtout ce que Debord a dit exactement le contraire.
Oui, et en plus, ça occulte aussi le fait que les luttes les plus radicales en Europe depuis mai 1968, ce sont les luttes dans les années 70 en Italie, où effectivement c'était des prolétaires d'usine, mais des prolétaires d'usine qui n'avaient pas le comportement habituel de la classe ouvrière blanche masculine, dans le sens où c'était, ils considéraient comme positif le vol, la grève des loyers, l'émeute, le sabotage. Voilà, et c'était lié au fait que précisément ils étaient un peu lumpen prolétaires d'une certaine manière, et finalement ils avaient été beaucoup plus radicales que la classe ouvrière blanche masculine traditionnelle du nord de l'Italie, qui elle, a pas tellement bougé dans ces années 70, contrairement aux jeunes immigrés du sud de l'Italie, qui ont été finalement plus révolutionnaires que leurs homologues plus prolétaires que.
Mais même ça peut peut-être nous inciter aussi à critiquer la notion aussi de lumpen prolétariat. Il y a peut-être presque derrière un puritanisme, c'est peut-être exagéré de le dire, mais en tout cas cette idée que il y a le bon travailleur ouvrier qui est dans une forme de vertu et il y a des formes de dégénérescence qui menacent la révolution. Et peut-être que, surtout chez Engels, je trouve que c'est très visible quand il parle de racaille, il faut peut-être tout simplement se passer de ces notions-là aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Qui sont, on le voit, récupérées de la pire façon possible chez des penseurs comme Francis Cousin.
Alors on va faire une petite pause musicale avant de reprendre d'une certaine manière notre propos dans cette deuxième partie, donc ce sera une deuxième partie de la deuxième partie, pour arriver sur la question de l'antisémitisme, du racisme anti-musulman, du patriarcat et du conspirationnisme.
La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité.
Imagine. imagine. Sans jeune, sans gêne, qui fume la Marie-Jeanne, qui se fout de mourir jeune, encore une âme que Paname condamne. Imagine, un œil pour accueillir les pleurs, un cœur pour assumer l'effort, avoir une cellule pour demeure. Imagine, les USA qui face à l'Irak capitule, imagine la peine capitale. Imagine moi plein de thunes, imagine une arme de poing dans la main d'un enfant qui répond que sa mère est la femme battue du bâtiment. Imagine le poing d'un Schmitt sur la gueule à ton père, ta vie natale sans repère, un dollar qu'on intolère. Imagine verser une larme de bière pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Imagine un chef d'état d'Afrique qui trafique, troque sa patrie à l'Occident pour raison politique. Imagine la colère d'un nazi, l'euthanasie pour abréger les souffrances, les douleurs d'une maladie. Imagine la peur d'un père immature, une paire de gants de combat pour tous ces gars qui nous censurent. Imagine, ouais. À quoi bon imaginer quand les jeunes de chez moi se tirent dessus pour un billet. Imagine ne jamais voir, mais à mes dépens j'ai vu qu'une pourriture pourrait me trahir pour un écu. Qu'un seul homme vienne me dire m'avoir jamais trahi, qu'un seul homme ose venir calomnier ma biographie. Imagine le prix du pétrole, la chute du CFA, un révolté qu'à la parole, un concert de Nas aux USA. Imagine la vie d'un malchanceux qui malgré sa chancelle en selle chevalier, car chômé n'est pas mieux. Imagine ce fort besoin de fortune, ce qu'est le crime pour l'opprimé, puis les dures misères de ma commune. Imagine ce père smicard au salaire misérable, d'où ma vue horrible, paternelle d'une fille adorable. Je sais c'est triste, mais imagine un peu mon cœur entouré de conspirateurs, ma vie n'aspire qu'à la rancœur. Imagine qu'en bas de mon immeuble, rares sont les jeunes aimables, et j'ai ce refus catégorique sur ces bavures intolérables. Imagine un Kosova qui s'en sort la vie sauve, j'ai fait l'effort mais la vie ne m'a offert que les flammes. Imagine ces chroniques sanglantes subies par les juifs, pour eux la haine est une soif, qu'un verre de sang serait jouissif. Imagine Mandela, 27 balais dans un trou, la colère qu'un insoumis ressent quand sa vie est sans un sou. Imagine que chaque jour ma haine j'évacue, car la vie dont j'ai rêvé n'a pas été celle que j'ai vécue. Imagine la vie d'un sans-abri privé de bien-être, toujours sous, sans jamais rien dans son assiette. Imagine avoir l'anti-gang sur le dos, les gangbangs sur un dos, un gang dingue sur un gars, avoir subi trop de ragots. Gros, imagine 45 jours au mitard, les pleurs, le sang sur les murs, signe d'un atroce séminaire. Imagine une France homogène où les gêneurs sont les mêmes, les gens morts sont les mêmes. Mec, j'ai trop peur pour ma môme. Imagine comment l'époque s'obscurcit, sa noirceur et sa misère font que le jeune du bloc s'endurcit. Imagine cette pluie ténébreuse qui tombe sur nos villes, cette nébuleuse de neige qui dans nos colisées nous pénalise. Imagine tandem au panthéon, perestroïka dans les rangs, dominateurs sur le béton, sur le béton, sur le béton, sur le béton, sur
le béton. Mais si les manches font les cheveux, j'arrive plus à écrire autre chose.
Les choses me faire flipper, la mort, l'excès d'amour.
Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je bois.
J'ai l'âme de la rue, le vécu qui est en moi.
Pour les changer de monde, mais c'est lui qui m'a changé.
Il y a encore en train de texte encore.
La vie est dure si on veut du rêve.
J'ai tellement dormi sur le gravier que je peux pas aller plus bas.